Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Parler Temps qui court, qui écoute les artistes pendant une heure. Ce soir, nous sommes ravis de recevoir Fanny Chiarello.
Un tango, une danse, un baiser.
Et tu peux taper, péter, péter.
Ça y est, puis 21h.
Ah ben, à vous voir arriver, on n'aurait pas cru que c'était si bien. Donc, voilà, ça résume, quoi.
C'est vrai que le printemps, l'été, c'est formidable. On avait les mêmes tomates et les petits pois.
Par les temps qui courent,
Marie Richeux,
ramasser la peau de leur voix à l'ombre de leurs gestes.
C'est un livre qui s'écrit entre deux sonneries de réveil. Celle qui vous met sur le chemin de l'aéroport parisien, un aller, et celle qui, un mois plus tard, vous met sur le chemin de l'aéroport new-yorkais, un retour. Entre les deux, vous assistez à des répétitions du Meredith Monk vocal ensemble, vous prenez le métro en griffonnant des pages de carnet pour oublier le moins possible, vous goûtez à des spaghettis à la courge dans la cuisine de la grande compositrice américaine et posez la moitié de vos questions. Vous commencez de travailler sur un texte, sorte de portrait, en ayant souci de ne pas trahir, et vous croyez, bien des fois et à tort, que personne ne remarque lorsque vous partez. Une fois rentré à Paris, il reste cette phrase « J'aurais dû rester ». A Happy Woman est un livre sur Meredith Monk, bien sûr, mais aussi sur l'amitié, la création, la transmission, et New York, qui est publié aux éditions de l'Olivier. Bonsoir et bienvenue, Fanny Chiarello.
Bonsoir.
Quand vous commencez à avoir l'idée d'écrire ce livre, vous lui imaginez quoi comme forme ?
Alors, absolument pas celle qui est finalement, s'est imposée. J'avais envie de faire un livre qui ressemblerait à un film sur Chet Baker en l'occurrence, que j'avais beaucoup aimé. C'est pas un documentaire, c'est pas une biographie, c'est vraiment un portrait de Chet Baker en noir et blanc, très stylisé, dans les derniers moments de sa vie. Donc on le voit dans sa voiture, on le voit dans son canapé, on le voit au Festival de Cannes, mais ça semble anodin en fait. Il y a pas d'événement derrière ça. Il est au Festival de Cannes, il pourrait très bien être ailleurs. On le voit juste silencieux au milieu des autres. Et on voit la manière dont il se tient au milieu des autres. Et c'est ça qui m'intéressait. Je trouve que c'est un portrait extrêmement subjectif, qui nous apprend rien sur sa carrière, sur sa vie, mais qui nous apprend quelque chose de l'homme. Et en quelque sorte, c'était ce que j'avais envie de faire avec Meredith Monk. Mais pour ça, il aurait fallu que je puisse la suivre encore plus dans l'intimité. Bon, je suis déjà très heureuse d'avoir été accueillie aussi fréquemment et dans des contextes si différents, et notamment, comme vous l'avez dit, dans son loft.
Quand ça évolue, ce projet-là, puisque ça ne prend finalement ni la forme d'un film réel, ni la forme d'un livre qui flirterait avec ce portrait filmé de Chet Baker, vous vous dites quoi ? Je vais faire un récit d'un séjour à New York, je vais peut-être pas d'ailleurs aller à New York, ou immédiatement vous vous dites il faut aller à New York ?
Alors quand je pars à New York, je ne sais pas dans quelle mesure Meredith Monk va se rendre disponible pour moi. Je ne sais pas si elle va accepter de m'accueillir. J'ai rendez-vous avec Peter qui est son bras droit.
Vous avez comme une bourse pour ça.
J'ai une bourse Stendhal, ce qui est en fait est à la fois un confort et une pression parce qu'il faut qu'il y ait un résultat et que ce résultat soit intéressant et publiable. Donc je pars avec l'impératif d'écrire quelque chose et avec un très très grand flou et je pars avec beaucoup de doute en me disant elle ne va pas m'accueillir parce que je suis très défaitiste de nature, elle va pas m'accueillir, je vais assister à deux ou trois choses, il faut que je réfléchisse à un autre projet que je pourrais faire à New York. Je pars avec plein d'idées dans tous les sens.
Comme quoi par exemple
Alors, il y avait notamment, je voulais faire un portrait de Brooklyn à travers la course à pied, parce que je pratique beaucoup la course à pied, donc j'ai passé, on va dire, une matinée sur deux là-bas à courir beaucoup pour découvrir Brooklyn, qui est un quartier très très vaste, hein, c'est un des plus gros arrondissements en fait de New York, et donc j'avais vraiment des pistes très différentes qui avaient trait ou pas à l'art et à la création, mais malgré tout, je continuais d'espérer un tout petit peu quand même que Meredith m'accueillerait. Mais surtout, ce que je voulais tester là, c'était ma capacité à improviser. Et ça fait partie de la démarche que j'ai envie d'embrasser maintenant dans la création. Après avoir été très longtemps assise à mon bureau, je me suis dit que le plus grand fléau qui gâte l'écrivain, c'est les escarres. Et j'ai décidé d'aller à la rencontre des gens et des lieux. Et donc parfois en short, puisque je cours, et parfois avec mes plus beaux atours qui sont pas très somptueux, et puis de voir comment ça se passe tout simplement, c'est-à-dire avec ma fragilité face à et mon incompétence aussi, c'est-à-dire que ne pas être derrière son bureau, c'est aussi ne pas s'appuyer sur des références, sur des autorités, ne pas avoir un discours érudit ou académique, mais être vraiment un être humain face à un autre. Et donc c'est ça qui s'est passé. C'était en gros un tête-à-tête avec Meredith Monk et quelques autres personnes.
Oui, quand même, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui traversent votre livre et on sent que justement c'est aussi un livre qui parle de solitude choisie. C'est d'ailleurs un des moments, une des thématiques des conversations que vous avez avec Meredith Monk. Par qui on est entouré? Comment on décide de s'entourer? Est-ce que les amis nous manquent? Sont-ils vraiment des très bons rendez-vous? Ses amis. Et finalement, ce départ de votre vie que vous appelez quotidienne ou habituelle vers New York, c'est aussi un départ vers la solitude, mais une solitude que vous qualifieriez comment, Fanny Carello? Qui n'est pas exactement celle de l'autrice, en fait, qui est une autre solitude.
Oui, c'est une solitude dont les lecteurs ne pourront pas percevoir l'ampleur parce que il y a une autre histoire derrière cette histoire. En fait, ça raconte la moitié de l'histoire. Il y a un autre livre qui est en cours d'écriture, enfin qui est écrit, dont la première mouture existe et que je vais maintenant abondamment retravailler, et qui raconte l'autre partie, qui est une partie dont la teneur a accentué le sentiment de solitude. Et c'est une solitude vraiment existentielle. Face notamment à une ville comme New York, parce que être seul dans un village où on va au pub et on connaît tout le monde en 3 jours, ça je peux le faire. Mais seul à New York, dans cette ville immense dans laquelle je n'avais jamais mis les pieds auparavant, où je n'avais aucun repère, c'était quand même quelque chose d'assez étonnant. Et puis pour moi, c'était surtout une circonstance rare, parce que jusqu'à présent, ça a changé depuis, en fait. Mais j'étais la personne la plus difficilement amovible du monde. Sans mes amis, sans ma famille, sans mon chat, c'était pas possible. Et donc ce mois-là a été très formateur. Et d'ailleurs, je dois donner l'impression de pleurnicher beaucoup dans le livre. Je pleurniche quand j'arrive parce que je suis séparée des miens. Et je
plus pleurniche... que ça même, hein, oui. Vous pleurnichez pas, vous, c'est un immense vertige.
Oui, c'est un immense vertige existentiel. Je trouve affreux de devoir partir. J'ai l'impression qu'on m'arrache à New York. Et j'ai l'impression surtout que vers la fin de mon séjour, je commence à vivre des choses qui me font sentir chez moi là-bas. Et donc, c'était à la fois très très long ce mois et trop court. C'est juste au moment où je commence à me sentir vraiment chez moi que je dois rentrer.
Et finalement, il y a beaucoup de moments où on se dit, bien sûr, c'est Meredith Monk, c'est une grande compositrice, et on va l'évoquer dans un instant, Fanny Carello, mais finalement, ce pourrait être une femme dans New York. Ce pourrait être une femme dans New York avec ce loft. Je sais pas, il y a tellement de choses qui sont, sinon banales, en tout cas de l'ordre de la vie de tout le monde, quoi, dont il est question dans ce livre-là. Alors bien sûr, bien sûr que il se trouve que c'est vers elle que vous allez et que c'est pas n'importe quelle femme et que ça a du sens. Mais tout de même.
Alors, je vais vers Meredith Monk parce que quand je découvre sa musique, elle me semble faite pour mes structures mentales. Vraiment à ce moment-là.
Pour vos synapses, vous écrivez.
Pour mes synapses. Et donc, je veux rencontrer cette femme qui, à mes yeux, est une légende. Et les questions que je vais lui poser seront essentiellement des questions sur prenez-vous le métro ou le taxi? Est-ce que vous aimez cuisiner? Est-ce que vous faites vos courses vous-même? Et en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi cette dimension de la légende. Et par exemple, Meredith Monk croit au génie. Moi, non, on en a discuté. Et en fait, je veux rencontrer la femme qui invente cette musique inouïe. Comment c'est possible? Pour moi, il y a quelque chose d'incompréhensible, parce que je suis pas musicienne, vraisemblablement, ni musicologue. Quelque chose de magique dans la création de musique. Et notamment parce que Meredith n'est pas quelqu'un qui a fait le conservatoire. Elle emploie elle-même le mot conservatoire, même si c'est pas exactement ce terme-là qu'on emploie aux États-Unis, mais c'est ce qu'elle dit. Et donc, on va dire, pas en autodidacte, c'est pas le cas non plus, mais avec uniquement sa personnalité, ses structures mentales à elle, elle crée cette musique incroyable, qui me semble être vraiment une évidence, comme si le monde, l'équilibre du monde, dès lors que cette musique existe, ne serait plus le même sans cette musique. Et donc pour moi c'est magique, c'est presque divin à vrai dire, et pourtant c'est produit par cette femme qui est toute petite, et qui en l'occurrence, comme elle est un peu âgée maintenant, a pas mal de douleurs en fait. Donc c'est très étonnant, et moi c'est ça qui m'intéresse, c'est d'incarner un moment, d'être confrontée à l'incarnation de cette personne qui a créé un univers sonore à part entière. C'est vraiment un univers sonore.
Ça veut dire que vous allez à New York avec la question simple de savoir qui est cette femme ?
Oui. Et ce qui m'intéresse, c'est de l'avoir dans son quotidien tout autant, voire plus, que d'avoir en répétition. Cela dit, j'ai été très surprise parce que la veille de mon départ, j'ai assisté à une répétition qui a éclairé mon écoute de sa musique. Et c'était un petit peu in extremis. Mais je l'avais vue auparavant plus en répétition, où elle faisait travailler des groupes de jeunes gens sur ses musiques. Et là, je la voyais, donc dans la dernière répétition, plus en prise avec une musique en cours de création ou de correction, et c'était complètement différent. Mais au départ, oui, ce qui m'intéresse, c'est de l'avoir dans son quotidien, et de l'avoir si petite au milieu de cette ville immense.
Commencer avec le travail pour tous les jours, parce que d'abord je fais des exercices pour le corps, c'est mon travail personnel, mais avec la compagnie aussi. Avec la compagnie, je fais les exercices pour le corps et la voix en même temps, mais pour moi, je dois d'abord concentrer dans le corps, et je fais beaucoup de choses avec le corps, et puis après je chante, et puis après je mélange tous les deux. J'ai trouvé que j'aime chanter après danser parce que mon corps est plus fort, mon diaphragme est plus fort après danser, et puis ça va mieux pour moi. Pour moi aussi, j'ai trouvé que la voix pour moi, c'est la source de d'émotion pour moi. Je crois que peut-être c'est la communication la plus directe, et la danse, pour moi, c'est comme un peu comme le, pas vraiment l'intellect, mais c'est plus général, je crois. Et je peux faire la comédie, je peux faire des choses witty, les choses. Je ne sais pas, c'est différent pour moi, c'est difficile à expliquer vraiment, mais je crois que pour moi la voix, c'est vraiment le centre d'émotion, c'est une communication directe, c'est comme une ligne au ventre, de ventre à la bouche. Et avec la compagnie ou dans mes workshops, je fais beaucoup d'exercices avec la voix, la musique et le corps ensemble. Et c'est très intéressant.
La voix et la musique de Meredith Monk, il y a plus de 35 ans, puisqu'on est en 1983 sur France Musique, dans l'émission France Musique La Nuit. Fanny Chiarello, d'une part, qu'est-ce que ça vous fait d'entendre cette voix bien plus jeune que la femme que vous décriviez tout à l'heure, petite, bien âgée désormais, avec le corps douloureux?
Mais c'est justement ce que je me suis dit quand j'ai entendu le début de... Déjà, j'ai été surprise parce que son français me semble beaucoup plus leste qu'aujourd'hui. Je pense qu'elle a perdu pas mal en français, parce qu'elle n'est plus invitée en France, mais j'y reviendrai. Et elle a plus du tout la même voix, évidemment. Elle a une voix beaucoup plus grave, une voix plus mûre. C'est très, très étonnant. Oui, alors c'est vraiment bien dommage, mais Meredith Monk, qui est très, très attachée à la France et à la culture française, n'est plus invitée pour ses grandes pièces depuis très longtemps. C'est-à-dire qu'elle a été invitée encore récemment à Lille. Moi, je suis lilloise. Elle a été invitée à Lille pour animer des espèces d'ateliers avec des groupes de jeunes, un peu ce à quoi j'ai assisté là-bas. Oui, et donc Dancing Voices, ça reprend un certain nombre de ses pièces, donc avec des maîtrises de jeunes gens. Et elle est invitée parfois pour se produire avec une de ses collaboratrices de plus longue date, qui est Kylie Gesinger. Et ensemble, elles font parfois des récitals. Mais ces grandes pièces, comme par exemple la dernière, donc j'ai un peu assisté à son élaboration, Cellular Songs. Elle n'est pas invitée très peu en Europe. Visiblement, il y a quelques dates qui se profilent en Allemagne et peut-être en Angleterre, mais rien du tout en France. Et elle s'est séparée de la personne qui s'occupait de lui trouver des dates en France, qui est plus spécialisée dans la danse. Et Meredith, c'est malgré tout avant tout de la composition, même si, comme elle le dit, effectivement, la danse est partie prenante dans son processus créatif. Et il y a de la danse sur scène, mais disons que... C'est très étonnant parce que les dernières très grandes pièces, on ne les a pas vues en France.
Mais vous avez eu la chance d'en voir en tout cas un petit début, puisque oui. Cellular Songs, c'est en effet une des dernières répétitions auxquelles vous assistez, Fanny Chiarello. On en est resté à vous qui débarquez à New York en n'étant pas certaine de trouver porte ouverte dans le travail, la maison, une forme d'intimité de Meredith Monk. Comment ça se passe? Comment elle vous invite?
Alors, d'abord, je rencontre donc Peter. Comme je disais tout à l'heure, c'était un petit peu... c'est son bras droit, mais c'est aussi l'espèce de gardien du temple, en fait. Il va décider si je mérite ou pas de rencontrer Meredith, et vraisemblablement voir si je ne suis pas une illuminée ou je ne sais quoi. Et donc, je passe une heure ou deux avec lui à la House Foundations for the Arts, qui est l'endroit où sont archivées certaines archives de Meredith, et puis là où est gérée vraiment sa carrière, c'est-à-dire ses engagements, les différents spectacles qu'elle a créé. Et là, j'ai droit à un planning où non seulement j'ai droit à tous les détails de son quotidien, mais au-delà de mes rêves, c'est-à-dire je sais quand elle fait du pilate, parce qu'elle fait du pilate, mais en plus, il y a une bande qui court tout du long. Donc, il y a quatre lignes, évidemment, enfin quatre lignes qui correspondent aux quatre semaines que je vais passer là-bas. Et en bleu, Fanny Chiarello in town. Qui court sur toute la longueur du calendrier. Et donc moi, je suis hyper fière parce que j'ai quand même une place de choix. C'est plus grand que Pilate, quoi. C'est bien. Et donc là, je suis déjà un peu rassurée, c'est-à-dire qu'elle se rappelle ma venue. Donc j'ai droit à quelques informations, notamment à l'adresse du Young People's Chorus of New York City, qui est l'endroit où elle répète à ce moment-là. Et donc j'arrive un samedi pour le début de la répétition. Elle est assise, elle se lève et elle vient vers moi en disant « Fanny, vous voici enfin ». En français. Et elle me fait la bise, alors que les Américains pratiquent le hug ou rien du tout. Et donc, c'est aussi parce qu'elle adore la culture française et ça fait partie des choses qu'elle aime, ce rituel de la bise. Et donc, ça se passe plutôt pas mal. Et comme je suis très discrète, à la fin de cette répétition, donc je reste vraiment toute la matinée puis tout l'après-midi, je vais la voir et je lui demande si je suis à la bienvenue le lendemain dans son loft pour assister à une répétition en plus petit comité. Et elle me dit, vous êtes très discrète, bien sûr, vous pouvez venir. Donc je gagne ma place dans l'ensemble de Meredith Monk par ce biais qui est la discrétion, voire l'invisibilité.
Mais d'ailleurs, Fanny Chiarello, si on essaye de se demander aussi de quoi ce livre est-il le livre, si on exclut qu'il n'est pas seulement, si on exclut qu'il est seulement un portrait de Meredith Monk, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que c'est un cheminement progressif sur où est mon corps, à quel endroit il a une place, est-ce que c'est un corps qui peut être visible, est-ce que c'est un corps qui est obligé à l'invisibilité? Je dis ça pourquoi, parce qu'à un moment donné, l'équipe qui a dans un premier temps apprécié cette invisibilité, parce que c'était une sorte de passeport, vous a dit mais en fait, enfin, tu peux aussi un peu plus exister, quoi. C'est possible d'une certaine manière.
Oui, oui. Alors, en réalité, ça ne s'est pas passé aussi facilement que ça le semble évidemment. Et il y a eu des raisons très concrètes au rapprochement, à mon rapprochement avec Meredith Monk, c'est-à-dire qu'il m'est arrivé quelque chose que je raconte donc dans l'autre livre et qui a attiré sa, comment dire, qui a suscité sa sympathie pour moi. Et à partir de ce moment, elle m'a emmenée absolument partout. Et notamment à la soirée de gala où elle a reçu le Gish Prize. Mais effectivement, la question du corps se pose pour moi. Je suis face à des gens qui passent leur temps à utiliser leur corps. Et moi, je suis là avec la démarche que j'expliquais tout à l'heure pour bien montrer qu'un écrivain, c'est aussi un corps et pas forcément un corps assis à un bureau. Et ironiquement, je me retrouve sur une chaise, sans bureau, mais avec un carnet sur les genoux. Et à un moment, j'ai l'impression d'être un carnet sur des genoux. Et je m'énerve. À un moment, je m'énerve et je dis donc j'écoute de la musique alors que jusqu'à présent j'écoutais que la musique de la ville. Je marche avec mon casque comme une adolescente rebelle et je dis Meredith, Kaylee Allison, je vais danser, je sais danser, etc. Bon, en fait, je danse assez médiocrement, mais avec beaucoup de cœur. Et donc, à ce moment-là, j'ai vraiment envie de leur montrer ça, leur montrer que je peux être vive, être même parfois rigolote. Enfin, je peux être un être incarné, en fait, et pas juste cette espèce d'ombre qui n'en fait pas d'ombre, en l'occurrence, plus discrète qu'un rat.
Et cette question du corps, on l'entendait dans cette archive de 1985 de Meredith Monk, est une question essentielle dans sa pratique et dans sa pratique quotidienne. Et d'ailleurs, à un moment donné, quand vous lui demandez « Mais qu'est-ce qui vous rend heureuse, vous, Meredith Monk ?» Elle dit « Mais faire mes exercices quand j'y arrive, faire mes exercices tous les jours quand j'y arrive. » Et on sent bien que le chant et la musique ne viennent pas de nulle part, qu'ils viennent d'une forme de... peut-être pas d'assaise, mais de pratique en tout cas, Fanny Chiarello. Est-ce que vous aviez l'intuition de trouver ce genre de femme-là?
Alors, je savais déjà qu'elle était bouddhiste, ce qui n'est pas un détail. Je ne savais pas la place exacte que ça prenait dans sa vie. J'ai été un petit peu surprise. J'avais vu quelques photos de son loft et j'avais bien vu qu'il y avait des fanions tibétains. C'est un loft dans lequel il y a plusieurs, je pense qu'il convient d'appeler ça des hôtels, vraiment, avec des dizaines de cadres, avec des portraits, dont des portraits du Dalai Lama. Et Meredith passe un temps considérable à lire des textes écrits par ce qu'elle appelle les maîtres bouddhistes. Je pense qu'aujourd'hui, elle lit plus de textes donc religieux que de littérature. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce qu'elle elle a fait partie d'avant-garde quand même dans les années 60-70. Et encore aujourd'hui, beaucoup de gens estiment que ce qu'elle fait est très peu audible. Par ailleurs, elle a des goûts extrêmement classiques en littérature. Et c'est étonnant. Enfin, en tout cas, oui, je suis surprise quand j'arrive chez elle de voir que le bouddhisme a une telle place, même visuellement. Et la pratique de la méditation et du yoga aussi. Et c'est pas la seule, en fait. Je ne sais pas si c'est exactement du yoga ou pas, mais je décris un moment, une répétition où je peux pas m'empêcher de rire toute seule à un moment. Donc sur ma chaise sous mon carnet, parce que Meredith est en train de répéter quelque chose avec Allison. Allison qui est aussi donc qui fait partie de l'ensemble vocal, mais qui est aussi une des musiciennes principales de Meredith. Elle joue de plein d'instruments, piano, violon, etc. Et donc elles sont en train de travailler à deux. Puis pendant ce temps-là, il y a trois autres membres de la troupe qui sont en train de faire des enchaînements de figures de yoga qui sont à mes yeux mais impossibles à tenir en fait. fait, mais à une vitesse incroyable. Et ça devient très drôle, c'est leur manière d'être brabalant. Et donc, on a l'impression que le bouddhisme est partout dans ce loft. Et que dès lors qu'on y entre, sauf dans la cuisine, parce que c'est pas très, très végétarien tout ça, on est dans un lieu de bouddhisme, très clairement. Je ne savais pas que Meredith avait autant de problèmes physiques parce que elle a 76 ans, elle a cette année, elle en a donc encore 74 pour peu de temps quand j'arrive, mais bon, c'est pas 90. Et je suis surprise de voir qu'il y a pas mal de mouvements qu'elle ne peut plus faire, notamment parce qu'elle a une cheville qui est en cours de désagrégation et elle a très mal au dos. Ça a un impact non seulement sur sa manière de donner ses pièces, mais aussi sur la manière de créer. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'elle ne peut plus faire. Quand elle reprend Cellular Songs, qui dont la première était au mois de mars 2018, elle change certains enchaînements de gestuelle plus que de danse, parce qu'il y a des postures dans lesquelles elle ne peut plus être. Elle a trop mal. Donc, entre les premières répétitions de cette pièce et la reprise quelques mois plus tard, il y a des impossibilités, des incapacités qui ont un impact sur la forme que prendra finalement la pièce. Et donc, le corps est vraiment pleinement au centre de la création. Elle a une influence sur la forme de l'œuvre.
Nous parlons de nos processus créatifs. Nous questionnons la notion de génie. Meredith emploie volontiers le mot, tandis que je l'ai banni de mon vocabulaire depuis des décennies. Nous tombons d'accord sur le fait que, même s'il existe quelque chose comme des prédispositions, aucune œuvre ne peut se construire sans travail. À ses débuts, Meredith Monk a beaucoup souffert des critiques assassines que recueillaient ses créations. Elle avait une vingtaine d'années, jouait sa vie à chaque nouvelle pièce et ne rencontrait guère de la part des journalistes que de l'incompréhension. Ils étaient hors sujet. Beaucoup d'artistes très prisés la soutenaient en revanche. Allaient parfois jusqu'à jouer pour elle, comme c'est le cas de Dick Higgins. D'autres membres de Fluxus s'intéressaient à son travail, notamment la plus médiatisée de tous, Yoko Ono. John Cage était bienveillant, Lamonty Young aussi, et bien d'autres légendes de ce New York bouillonnant des années 1960 et 1970, comme je l'ai déjà mentionné. Mais la presse. Parfois Meredith mettait des mois à se remettre de ses interprétations ineptes et ne poursuivait que par une foi impérieuse en ce qu'elle avait à faire. C'est d'autant plus difficile quand on est une femme, me dit-elle. Mais cela nous donne un avantage sur les hommes. Nous sommes opiniâtres et nous questionnons constamment notre pratique. Regarde certains compositeurs. Je n'hésiterai pas, tu sais très bien de qui je veux parler. On sent bien que leur mère leur a dit « Tu vas tout réussir, trésor. Tu es le meilleur. »
Fanny Carello, Romain de Bec de Lièvre lit un extrait de votre texte « Happy Woman » et l'un des moments où vous racontez les discussions que vous avez avec Meredith Monk, le temps passe et en effet, il y a une possibilité de rapprochement et puis ces discussions sont de plus en plus, je ne sais pas comment on pourrait dire, peut-être pas intimes, mais en tout cas peut-être plus précises. Et vous touchez à ce genre de point-là, à savoir la création et le fait d'être une femme qui crée. D'une certaine manière, entreprendre ce livre-là, en dehors de questionner la création de Meredith Monk, c'est aussi une façon de questionner la vôtre. Vous le disiez tout à l'heure, vous vous engagez pour dire « bah, je veux sortir de mon bureau et je veux aller prendre l'air », quoi. Dire qu'écrire, c'est aussi bouger. Tout à l'heure, vous avez mentionné la présence de Peter, mais on a l'impression que ce livre est presque uniquement peuplé de femmes, Fanny Carello.
Il est vrai que j'ai rencontré beaucoup plus de femmes que d'hommes. Parmi les musiciens avec lesquels je l'ai vu collaborer pendant mon séjour, il y a juste Theo Blackman, en fait, c'est le seul, qui est un personnage très très particulier physiquement dans sa carrière, parce que il mène une carrière solo assez atypique, qu'on pourrait classer dans le jazz, mais ce serait un jazz vraiment étrange, et qui par ailleurs multiplie les collaborations, et c'est un grand fidèle de Meredith Monk. Beaucoup le sont. Les femmes que j'ai rencontrées, donc il y a Kaylee Geisinger, qui est une collaboratrice de Meredith depuis 28 ans, Alison Sniffin depuis 21 ans, et le plus incroyable, c'est Lan Fisher, qui elle travaille avec Meredith depuis 74, l'année de ma naissance. Je trouve ça absolument fascinant, et elle en parle comme elle parle de son ensemble. C'est marrant parce qu'elle dit compagnie dans l'interview tout à l'heure, alors qu'en fait elle utilise le mot ensemble en général dans son ensemble vocal. Donc ces trois femmes ont l'impression de former une famille, enfin les quatre en comptant Meredith. Elles ont l'impression de former une famille, elles parlent de famille. Et pourtant, ce n'est pas si simple. Et il y a beaucoup de choses que je n'ai pas écrites parce que, par amitié pour Meredith, des choses que m'ont dites les autres femmes. Et je sais que cet engagement qu'elles ont auprès de Meredith n'est pas, sans sacrifice. J'en ai un petit peu parlé avec Meredith.
Oui, ça apparaît, mais c'est-à-dire qu'évidemment, ça n'est que son point de vue.
Oui.
Ça apparaît dans la discussion où vous lui demandez, mais ces femmes-là qui sont si fidèles à votre travail, qui font exister votre musique d'une certaine manière, sans elles, ce serait différent. Oui. Est-ce que ce sont vos amis? Est-ce que vous les appelez pour discuter quand vous n'êtes pas bien? Et on sent que ce n'est pas très clair.
Non, c'est pas très clair.
On sent que c'est fort, elle dit que c'est profond, mais que c'est pas très clair.
Oui, et puis, par exemple, quand elle a eu le Gish Prize, il y a eu des revendications salariales derrière, en fait. Ça, je ne suis pas censée le savoir, mais je le sais. Et donc,
c'est beaucoup d'argent, hein. Elle vous dit, ça va éponger 10 ans de dette, c'est hyper important pour moi, j'ai pas beaucoup d'argent pour faire les pièces que je veux faire, etc. Donc, d'un seul coup, quand arrive plein d'argent pour l'ensemble, j'imagine que les interprètes ou les musiciens ou musiciennes se disent que pourquoi pas.
Petite part. Mais oui. Et, bon, après, il y a un autre aspect quand je parle de sacrifice. Pour certains, c'est un sacrifice beaucoup plus gros. On va dire que Kaylee, par exemple, elle est une chanteuse, une interprète. Elle peut très bien chanter à Broadway. Elle peut chanter au Carnegie Hall. Elle peut chanter un peu partout, en fait, dans de l'opéra, dans de l'opérette. Elle a pas de registre fixe. Et ce qui est d'ailleurs assez étonnant en soi. Et puis bon, Elon, c'est plutôt une danseuse. Mais Alison était une compositrice. C'est une compositrice, mais qui ne compose plus. Donc c'est un petit peu particulier. C'est-à-dire que depuis qu'elle est entrée dans l'ensemble vocal, elle a cessé de composer ses propres pièces, qui étaient des pièces que moi je trouve intéressantes, qui sont sans doute de facture plus classique que ce que fait Meredith, bien sûr, mais ça vaut quelque chose, quoi. C'est une œuvre que je trouve riche et ambitieuse. Et donc, quand je parle de ça à Meredith, et je parle aussi de Peter, qui était chorégraphe avant de travailler pour Meredith, et lui, je pense que ça fait 18 ans qu'il travaille pour elle. Quand j'en parle à Peter, il dit, ça fait longtemps. Il en parle comme d'une vieille blague, en fait. Et donc, quand j'en parle à Meredith en lui disant, mais ça ne t'embête pas de savoir que tes plus anciens collaborateurs ont fait le sacrifice de leur propre création pour la tienne? Elle me dit, Fanny, quand on a besoin de créer, on le fait, non? Et là, je suis bien obligée de lui dire oui, parce que personnellement, il m'est arrivé de sacrifier beaucoup de choses, et notamment l'aisance financière, pour continuer à faire la seule chose qui me semble donner une forme de sens à ma vie, en fait. Et je vois bien que je connais très bien Alison, c'est aujourd'hui une de mes amies les plus proches, et on échange presque quotidiennement. Je sais que il y a derrière une blessure profonde, parce que elle a renoncé à ça.
Et c'est aussi l'objet de des échanges avec Meredith Monk sur la question du génie. Vous vous dites, j'ai abandonné ce terme-là. Elle, manifestement, non. C'est parce qu'elle croit qu'elle a définitivement quelque chose à dire. Et que ça se fera, en tout cas, elle a l'air assez au clair sur le fait, même si c'est en filigrane, que ça se fera peut-être au sacrifice de certaines amitiés, au sacrifice d'une vie très seule, notamment après la mort, on l'a pas évoqué, mais de sa compagne. Donc voilà, on sent que c'est la musique avant toute chose.
Mais quand elle parle de Mick, donc, qui était sa compagne pendant 20 ans, effectivement, elle dit c'était quelqu'un de très généreux, qui prenait le temps avec ses amis, qui prenait le temps avec les gens, et quand elle regarde comment Mick vivait, elle se disait mais est-ce que moi je suis pas passée à côté de quelque chose parce que mon activité me rend très solitaire. Même si elle a un ensemble, c'est vrai que malgré tout, c'est quand même quelqu'un qui semble assez seul. Et malgré le nombre incalculable d'amis qu'elle a. Et elle dit non parce que moi, ma manière d'aimer, c'est de créer. Donc il y a quelque chose à la fois très généreux dans l'attitude de Meredith envers les gens qui l'entourent, et notamment, moi je la vois donc répéter avec des gamins, elle est très généreuse de son temps, de son énergie, de ses compliments.
De son attention.
Ah oui, elle est même tendre, elle a beaucoup d'affection pour eux, elle serre beaucoup de gens dans ses bras, Meredith. Elle est comme ça, on voit que c'est quelqu'un de généreux, et en même temps, c'est son œuvre d'abord.
Avec une forme de reconnaissance, et la remise du prix est l'occasion pour elle à la fois de remercier toutes les personnes qui sur son parcours lui ont permis d'aimer en créant, comme elle dit. Et elle dit voilà, ça m'arrive en pleine méditation de me souvenir qu'à 20 ans quelqu'un s'est arrêté pour me dire tu as du talent, continue, et de prendre le téléphone pour inviter la personne à la remise du prix. Est-ce que ça vous intéresse, Fanny Chiarello, de prendre, comme elle le fait et comme vous le rapportez dans cette conversation, la question de la création du point de vue du genre?
Oui, ça m'intéresse beaucoup. Ça fait partie des déterminismes qui me semblent changer beaucoup de choses, même si je sais que c'est souvent nié. Je me suis déjà disputée avec pas mal de personnes, et notamment des auteurs masculins, sur ce sujet. Ce n'est absolument pas la même chose de créer quand on est une femme et quand on est un homme.
Mais pour des questions... Non, je vous laisse développer.
Alors, d'une part, je pense qu'on n'a pas la même assurance la plupart du temps quand on est une femme, parce qu'on ne nous a pas appris. Meredith le disait à propos de Steve Reich, puisqu'il s'agit de lui, bravo mon trésor, tu es le meilleur, tu vas y arriver. On ne grandit pas avec cette impression-là. On a l'impression, quand on s'attaque à quelque chose comme la création, qu'on n'est pas à notre place. Donc déjà, il y a ce manque d'assurance avec lequel on part, et ensuite il y a la réception qui, effectivement, n'est pas la même selon qu'on est un homme ou une femme. Et je serais très curieuse de savoir comment seraient perçus certains livres ou certaines musiques si on pensait à quelles sont les œuvres de femmes, d'hommes, alors qu'en fait ce sont des œuvres de femmes. À mon avis, on attend plus de sérieux et de profondeur d'une création masculine, pour une raison qui est connue, qui est très ancienne, qui est très ancrée, et même si on lutte et même si les choses avancent, elles avancent très lentement. Et donc moi je suis vraiment persuadée que c'est que ça change vraiment beaucoup beaucoup de choses.
D'un seul coup, ça éclaire pour moi le titre d'une toute nouvelle manière, A Happy Woman, qui est l'une des pièces de Cellular Song, en tout cas l'un des extraits qui donne le titre à votre roman, Fanny Chiarello. Est-ce qu'il n'y a pas cette dimension-là, A Happy Woman, une femme heureuse qui crée à sa place, avec de la place pour elle, et je ne parle pas tant de Meredith Monk que de vous.
Oui, mais de toute façon, le titre est très ambigu, parce que quand je l'ai choisi, que j'ai demandé à Meredith l'autorisation de l'utiliser, je pensais à moi tout autant qu'à elle. Et d'autant que pour les raisons qui seront donc dans le deuxième livre, je suis devenue une autre personne au retour de New York, parce qu'il s'est passé des choses qui ont bouleversé complètement ma vie et ma posture dans la vie, dans la création. Et la rencontre avec Meredith a d'ailleurs été importante à ce point de vue aussi. Je veux dire, il n'y a pas que l'autre partie du voyage auquel je...
On a hâte, du coup, on a envie de savoir. Mais
il y a aussi cette rencontre, effectivement, où je vois cette femme qui a été opiniâtre, comme je l'ai été à des moments de ma vie où j'aurais pu laisser tomber l'écriture, parce que, par exemple, avant d'être publiée par l'Olivier, j'étais publiée par une maison d'édition lilloise, Page à Page, et à un moment, Page à Page, page a cessé d'exister pendant plusieurs années. Je me retrouvais donc sans éditeur pour mes romans. Et pendant 4 ans, j'ai vécu ce qu'on vient d'appeler une espèce de traversée du désert. Et je n'ai jamais cessé d'écrire. Je n'ai pas essayé de trouver un job. J'ai continué. Je pense que mon irréalisme, enfin mon absence totale de réalisme et mon opiniâtreté sont mes plus grandes armes contre toutes les évidences, et notamment ce déterminisme-là. Bon.
Puisque nous avons beaucoup parlé de New York, nous allons continuer d'en parler.
À New York, tout le monde est artiste. D'ailleurs, allez dans les bars le soir et vous demandez à quelqu'un ce que vous faites, personne ne va dire « je suis secrétaire », tout le monde dit « je suis artiste ». I'm an artist. Et en fait, les New Yorkais sont tous des artistes de leur propre vie, vous voyez. En un sens, ils la créent, parce qu'après tout, même si peu le font, ils pourraient très bien changer de nom tous les soirs, avoir une différente personnalité, changer comme on change de vêtements. Il y a très peu de gens qui remarqueraient qui feraient la différence, vous voyez, espèce de chose où il n'y a même pas besoin de choquer ni de se déguiser, vous voyez. Bon, mais c'est aussi que, il n'y a pas les mêmes stigmas qui sont mis sur les gens. Par exemple, ici, beaucoup de gens qui servent dans des restaurants, sont en même temps font de la danse, font ceci, cela. Il n'y a pas, on n'est pas accroché dans une classe sociale comme en France. On n'est pas né quelque part et on en mourra, vous voyez. Ici, les gens, une espèce de fluidité, on peut très bien passer. Moi, j'ai un ami qui fait des films vidéo, qui est le manager d'un rocker, enfin pas d'un rocker, d'un rappeur qui est assez connu, qui est Ramelzy. Bon, en même temps, je l'ai connu quand il était portier. Vous voyez ? Bon, autrement dit, il y a toutes sortes de possibilités de fluctuations. Les gens sont beaucoup moins coincés, à moins qu'ils le veuillent. Tout le monde. Il y a des gens qui n'attendent que ça. Mais c'est pas obligatoire. Voilà le côté artiste, si vous voulez. Tout le monde est là et tout le monde a un potentiel. Et New York, ça libère cette créativité parce que pourquoi pas ? Qu'est-ce qu'il y a à perdre ?
France Culture, par les temps qui courent, Marie Richeux avec Fanny Carreno.
Somewhere in this hip-hop soul community was born 3, they stubbed me, and that's a magic number.
What does it all mean?
Difficult preaching is posthumous pleasure. Pleasure in preaching starts in the heart. Something that stimulates the music in a measure. Measure in the music, racing 3 parts. Casually see, but don't do like the soul. Cause seeing and doing are actions for monkeys. Doing hip-hop, hustle, no rock and roll. Unless your name's Brewster, cause Brewster's a punk. Parents let go, cause it's magic in the air. Criticizing rap shows you're out of order. Stop looking, listen to the phrase in Fred Astaire's. And don't get offended while Mace Do-Si-Do's your daughter. A dry camera roll system is now set. Fly around stored under Daisy Productions. It stands for the inner sound, y'all in your Quebec. That the action's not a trick, but show me the function. Everybody wants to be a DJ. Everybody wants to be an MC. But being speakers are the best, and you don't have to guess. De La Soul Posse consists of 3, and that's a magic number.
3.
This here piece of the pie is not dessert, but the course that we dine at. 3 out of every darn time, the effect is what a daisy grows in your mind. Showing true position, this here piece is kissing the part of the pie that's missing, where that negative number fills up your casualty. Maybe you can subtract it, you can call it your lucky partner, maybe you can call it your adjective. But odd as it may be, without my 1 and 2, where would there be my 3? Mace, Posse, me, and that's the magic number.
What does it all mean?
Focus is formed by flaunt of the soul. Souls who flaunt style gain praises by pounds. Common on speakers who honor the scroll. Scroll written daily creates a new sound. Listeners listen cause this here is wisdom. Wisdom of a speaker, a dumb and a plug. Set aside a legal substance to feed them for now. Get them high off this dialect drug. Time is a factor, so it's time to count.
Fanny Carreno, on entendait juste avant De La Soul un philosophe qui s'appelle Silver Lautringer parler de New York en des termes que finalement nous connaissons. L'idée d'une ville de la réinvention, l'idée d'une ville où tout le monde veut être artiste, l'idée d'une ville où le destin et la réinvention de son propre destin est possible. Alors à entendre ça, c'est aussi Nashville de 1985, on pourrait se dire, ben, on entend souvent ça, et est-ce que c'est simplement l'histoire mythique de New York ou est-ce que c'est quelque chose qu'on éprouve ?
Alors, moi, je ne l'ai pas éprouvé, pourtant, je l'ai cherché. J'ai été un petit peu déçue. j'ai été déçue, mais aussi parce que j'ai préparé mon voyage uniquement avec l'axe « je vais rencontrer Meredith Monk ». J'aurais pu le préparer autrement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, j'ai une liste de plusieurs dizaines d'artistes que je pourrais très bien chercher qui effectivement, créent et vivent à New York et qui sont d'origine très variée, en fait. C'est un petit peu comme Berlin en Europe. C'est vraiment une ville qui magnétise encore beaucoup d'artistes. Donc ça, c'est vrai. En revanche, moi, là où je suis allée, j'en ai pas croisé. J'ai peut-être pas eu beaucoup de chance, mais au Delhi, quand j'ai acheté mon paquet de chips, non. Quand j'allais acheter ma bouteille de Shira Yellowtail au liquor store, non plus. Et c'est vrai que je suis pas beaucoup sortie, j'ai pas traîné dans les bistrots et tout ça. C'est peut-être aussi pour ça. J'ai peut-être passé trop de temps à travailler.
Et sur l'idée que tout est possible, qu'on peut s'inventer sans forcément être artiste, mais que là-bas... En fait, à entendre parfois les gens parler de New York, on a l'impression d'un endroit où, je sais pas, on a justement les déterminismes dont on parlait tout à l'heure, le poids de la vieille Europe et son histoire, tout ça s'allège et c'est possible d'avoir une autre vie, d'être quelqu'un d'autre.
Je sais pas si c'est encore le cas. J'aurais du mal à répondre parce que j'ai pas senti ça.
Et en même temps, vous dites « je suis rentrée transformée ».
Je suis rentrée transformée parce que c'est immense et que, oui, d'une certaine manière, ça laisse une forme de liberté. Et en même temps, j'avais conscience du fait que si ce que j'ai failli faire un moment, je décidais de m'installer là-bas, j'aurais les mêmes contraintes qu'ailleurs, mais dans un nouveau contexte. Évidemment, rien que de voir les problèmes de Meredith Monk, quand même une légende avec son propriétaire, ça peut paraître un détail, mais en fait, on est comme partout ailleurs, poursuivi par des réalités assez difficiles. Et quand Sylvain Lautringer dit ça à propos de la capacité qu'on a là-bas à s'inventer, il faut voir par quel sacrifice on passe. Et notamment, la génération de Meredith, par exemple, c'est aussi Philippe Glass qui était chauffeur de taxi, chauffagiste, etc. Et que d'ailleurs, elle a rencontré parce qu'un jour, il est venu faire des petites réparations de plomberie chez elle, ce qui est quand même assez incroyable. C'est une sacrée coïncidence. À moins que inventé pour la légende, mais c'est pas grave, parce que c'est à partir du moment où elle le raconte, c'est comme si ça avait existé.
Ce qui vous intéresse toujours, la question de la légende. Autour de vous, les gens se demandent, les personnes avec qui Meredith Monk travaille, et que donc vous côtoyez quotidiennement, Fanny Chiarello, se demande quel livre vous êtes en train d'écrire, et rit avec ça. Et toi, tu m'as donné quelle place, alors je suis quoi comme genre de personnage dans ton roman? Est-ce que je suis sympa? Est-ce qu'il m'arrive des aventures? Est-ce que vous aviez vous-même conscience de ce que vous étiez en train d'écrire, de la forme que ça prenait, de la non-fiction que ça drainait?
J'en ai pris conscience assez rapidement parce que, comme je le disais à l'instant, j'ai beaucoup travaillé. C'est-à-dire que je suis rentrée de New York avec plus de pages que n'en comporte aujourd'hui le livre. Je suis rentrée avec 180 pages de brouillon. Ça s'est un peu imposé à moi. C'était dense. Il fallait que j'écrive tout avant de le perdre. J'aurais très bien pu choisir autre chose qui aurait été tout aussi intéressant, c'est de laisser la mémoire faire un premier travail. J'ai choisi de faire ça parce que ça me semblait correspondre à mon désir de sortir de chez moi. C'est aussi sortir de ma tête, de ce travail de la mémoire, qui est une forme de fiction, déjà. Donc, je voulais être au plus près de ce que j'ai prouvé. Et au début, le texte était d'ailleurs beaucoup plus riche en détails. Par exemple, on savait en gros ce que je mangeais.
Quasiment comme un journal, plus comme un journal.
Bah, d'ailleurs, ça prend un peu cette forme.
Il reste des dates, quand même.
Oui, il reste des dates, même si c'est pas très, très important. Plutôt pour bien repérer parfois les ellipses, parce que il y a un moment où Meredith part pendant une semaine de New York et il faut bien que je continue mon travail. Mais c'était difficile de savoir quelle forme ça allait prendre. C'était vraiment en improvisation.
Je retrouve dans mes documents un texte écrit cet été que je ressens aujourd'hui comme prémonitoire. Il y a un trou cutané sur la paume de ma main droite. Un tout petit cercle de peau manquante au cœur de ma main, exactement sur la ligne de vie. Dessous, un autre épiderme, à peine plus pâle, se laissait déjà deviner. Au fil des jours, le cercle ne cesse de s'étendre, prenant une forme de moins en moins géométrique. Je peux tirer dessus, je peux m'éplucher. Aujourd'hui, le trou est assez large pour me révéler que ma ligne de vie ne coïncide pas exactement avec elle-même, d'une couche à l'autre de l'épiderme. Je vois clairement un décalage de presque un millimètre. Ma ligne de vie sera brisée jusqu'à totale pelure de ma paume si la mue s'achève avant que le temps qui m'est imparti ne s'enfuit par la brèche de la ligne telle qu'elle m'apparaît aujourd'hui en palimpseste déchiré. Je n'ai pas étudié le plan de Brooklyn au point de vérifier combien de rues sont sujettes à ce léger décalage que j'ai constaté sur ma paume. Cet été, mais Green Avenue, où j'habite ici, en fait partie. Elle est sujette à de nombreux décrochages. Par exemple, il ne suffit pas de traverser Bushwick Avenue pour continuer de longer la rue. Il faut bifurquer d'une trentaine de mètres à gauche, à angle droit, puis quand on coupe Broadway, il faut bifurquer d'une vingtaine de mètres à gauche, encore, et ensuite la rue se plie à 30 degrés vers le sud-ouest. Toutes les rues parallèles à la mienne ne sont pas ainsi configurées. Certaines n'ont qu'une vie, sans pliure. Après la pliure, Gates reste Gates, de même que Green reste Green. Tandis que Palmetto devient Monroe, ce qui est bien dommage, et que Linden devient Quincy. Certaines rues ont droit à plusieurs vies, dans des quartiers différents. Myrtle Avenue en traverse pas moins de 6. Sur des axes intellectuellement inconciliables pour le profane sans l'aide visuelle d'un plan, tandis que d'autres sont de proportions modestes, presque européennes, de simples segments dans l'espace. Je me rappelle ne pas avoir compris, pendant les premiers temps de mon séjour, que Green Avenue se poursuivait au-delà de Broadway. Je me rappelle avoir cru, pendant les premiers temps de mon séjour, que je serais heureuse et soulagée de quitter cette ville à l'issue de mon séjour. Au cours de ce mois, je me suis plié, 30 degrés vers le sud-ouest, à de nouvelles forces qui me dépassent. Aujourd'hui, je marche paisiblement vers le 863 Green Avenue, dans le labyrinthe trompeur de Brooklyn. Je ne suis pas perdu. Je reconnais le nom de nombreuses rues, et la plupart du temps, je sais si leur axe est plutôt nord-sud ou sud-ouest. Quand je ne le sais pas, j'attends le prochain bloc, le prochain panneau. Je suis calme et confiante. Je continue de marcher. Les sentiments antagonistes dont je suis la proie ne m'empêchent pas de marcher paisiblement.
Fanny Chiarello, Romain de Bec-de-Lièvre lit un dernier extrait de votre texte « Happy Woman » et vous le disiez tout à l'heure, peut-être au tout début de votre projet, vous débarquez avec New York avec pourquoi pas l'idée de travailler sur la géographie de Brooklyn, de ses rues et on entend là qu'il y a quelque chose de la ville, de ses lignes, de ce qui la traverse, de la manière dont vous vous déplacez le dedans qui est rentré à l'intérieur au point que presque New York plus encore que Meredith Monk, puisse agir comme un agent de métamorphose. Est-ce que vous diriez cela ?
Oui. Et alors, parmi les déterminismes qui me semblent très importants dans la création, il y a évidemment le genre, comme on le disait tout à l'heure, mais il y a aussi la géographie. Et il n'est pas anodin pour un auteur, particulièrement pour une autrice, d'avoir grandi dans le bassin minier et donc dans une toute petite ville qui est très mal considérée au plan national et donc d'arriver un jour à la seule force de la volonté, et avec un peu de chance bien sûr, à New York. Et c'est pour moi, c'est aussi étrange à concevoir que des choses bien plus grandes que New York encore, comme l'amour, comme la mort, c'est vraiment un vertige profond de m'en rendre compte que c'est moi, la petite moi, là, à New York. J'ai droit. C'est formidable.
Et ça a à voir avec le symbole de cette ville. Un peu le symbole dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire ce qu'elle peut représenter comme lumière.
Peut-être. Alors, c'est ce qui est très curieux, c'est que je suis allée à New York parce que Meredith Monk y était, mais que je n'avais jamais auparavant été attirée par New York. Et aujourd'hui, bon, j'essaye de ne pas trop y penser ou pas trop souvent, mais par exemple, quand j'ai pris le train pour venir à Paris, j'écoutais Meredith Monk au casque et j'avais des réminiscences de New York. Et à un instant, bêtement, comme ça, par inadvertance, je me suis dit, quand je pense que la vie, elle est là-bas. En fait, comme si c'était le centre du monde. Mais c'est idiot, parce que si j'étais allée à Los Angeles, qui est en plus un rêve d'enfance, parce que Los Angeles, c'est le Big One, c'est beaucoup de symboles qui me sont chers, des trucs en général un peu, on va dire, enfin, du monde. C'est un petit peu mon truc. New York, c'est peut-être trop rayonnant pour moi. Mais d'ailleurs, j'ai pas du tout apprécié Manhattan, par exemple. C'est une espèce de symbole que je rejetais, et puis, j'ai été apprivoisée par la ville.
Est-ce qu'il y a, pour finir, Fanny Carello, quelque chose que vous avez découvert de votre lien à la musique de Meredith Monk?
Spécifiquement à sa musique, à elle, j'ai découvert que les morceaux que je préfère n'étaient pas ceux que je pensais. Parce que, par exemple, Free Heavens and Hells n'était pas mon morceau préféré du tout. Aujourd'hui, c'est l'un de ceux que j'écoute le plus et je l'écoute beaucoup en courant. Et j'ai découvert que les voix créaient des percussions. Je trouve ce morceau absolument inouï. Et j'aurais pu m'en lasser parce que je l'ai vu en répétition un nombre incalculable de fois avec les groupes de jeunes filles. Et aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui me semble être une espèce d'image du bonheur, en fait.
Bah, on va terminer par ça, ça tombe bien. Merci beaucoup, Happy Woman, Fanny Carello, est publiée chez L'Olivier.
Merci.
Ce soir au son, c'était Stéphane Desmonts, à la réalisation Massimo Bellini. Vous pouvez réécouter cette émission sur franceculture.fr et ou en vous abonnant au podcast de Par les temps qui courent. Un grand merci à Romain Debecq de Lièvre, Jeanne Aléos, Marianne Chassor, Lou Quevauvillé qui m'aide à penser et préparer cette émission tous les jours. Dans un instant, le journal sur France Culture. Très belle soirée et à demain. Good day, all 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 good day,
Heaven, heaven, hell, hell, heaven, 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 heaven Hell, 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 heaven, heaven, heaven. Hell, 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 heaven, heaven, heaven. Hell, 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 heaven, heaven, hell, 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 heaven, heaven, heaven,
heaven.
What do the three heavens and hells look like?